Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Au moins deux personnes tuées dans une attaque contre un convoi humanitaire à Kavunano, dans le Lubero, au nord Kivu. Cela s'est passé dans la nuit de dimanche à hier lundi. Le convoi quittait Lubero pour Beni en passant par Butembo. Choléra à Mbujimayi, 29 cas dont 4 décès sont rapportés en 3 semaines dans 11 zones de santé sur les 19 que compte la province du Kasaï oriental. Le médecin épidémiologiste provincial sollicite l'appui en intrants médicaux pour une prise en charge appropriée des malades. Et puis, l'invité de ce midi, Raphaël Upelele, secrétaire exécutif de l'ONG Akizabina Damu au Maniema, il interpelle la conscience, surtout des autorités, pour que cesse la torture en RDC. Message lancé en marge du 26 juin, journée internationale de soutien aux victimes de la torture. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du territoire de Lubero, au nord Kivu. Au moins deux personnes ont été tuées dans une attaque contre un convoi humanitaire la nuit de dimanche à hier lundi à Kavunano, village situé à une dizaine de kilomètres de la ville de Butembo. Le convoi humanitaire s'est rendu de Lubero à Beni en passant par Butembo. Cet incident tragique n'est pas un cas isolé dans la région où les fausses rumeurs donnent lieu à des cas de justice populaire, comme nous le dit André Kitenge.
Cette attaque est la première contre des humanitaires dans la région de Butembo-Lubero depuis la dégradation de la situation sécuritaire dans le Grand Nord Kivu. Elle a eu lieu à Kivunano, un petit village situé à une dizaine de kilomètres de la ville de Butembo. Ici, rapporte la société civile et les autorités locales, des jeunes non encore identifiés ont érigé des barricades pour contrôler les usagers de la route face à l'avancée des rebelles du M23 vers la ville de Butembo. Après un contrôle, ces jeunes ont décidé de mettre le feu sur 5 véhicules et brûler vifs deux employés de cette ONG internationale alors que les autres passagers se sont sauvés de justesse. Dans un communiqué publié dimanche soir, cette ONG condamne fermement l'attaque contre son personnel qui travaille sans relâche pour apporter de l'assistance aux plus vulnérables dans une région où les besoins humanitaires sont énormes à la suite de l'afflux des déplacés. L'administrateur du territoire de Lubero, le colonel Alain Kiwewa, condamne également cette attaque et la désinformation à l'origine de cet acte insensé. Au moins 5 autres personnes, dont 2 militaires, ont été tuées par justice populaire dans la même région et toujours à la suite de fausses rumeurs. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Pendant ce temps, des voix s'élèvent pour demander des négociations entre le gouvernement et le M23 face à l'avancée des rebelles du M23 qui occupent plusieurs agglomérations du territoire de Lubero. Certains notables du territoire estiment que le temps est venu pour le gouvernement d'accepter des négociations avec cette rébellion afin de préserver des vies humaines. L'un d'eux, Abner Kiveo, vient de fuir les combats entre les FARDC et les rebelles du M23 dans la zone de Kanyabayonga et Kirumba. Il explique la situation au micro d'André Kitenge.
J'ai été à Kanyabayonga. Maintenant, nous disons que mieux vaut tard que jamais. Il faut épargner les vies humaines. Il faut préserver l'ordre constitutionnel. Et pour préserver l'ordre constitutionnel, préserver les vies humaines, le gouvernement congolais doit accélérer la voie diplomatique, des négociations. Nous avons perdu beaucoup déjà à Kanyabayonga, à Kirumba. Et est-ce qu'il faut continuer à perdre comme ça? Nous recommandons, nous, attaquer notable, de se ressaisir et de négocier avec l'ennemi pourvu que les vies humaines soient épargnées et que l'ordre constitutionnel soit protégé. Et nous estimons qu'avec des négociations qui seront cessées, si l'ennemi en a encore besoin, parce qu'il peut arriver que l'ennemi refuse maintenant de négocier. Alors dans ce cas-là, ça sera les déliges. C'est pourquoi notre recommandation va tout droit au gouvernement. Nous disons mieux vaut tard que jamais. Négocier pourvu que l'ennemi n'atteigne pas Butembo, pourvu que l'ennemi n'atteigne pas Beni. Parce que la chute de Butembo, la chute de Beni sera une énième humiliation de notre gouvernement.
Notez que le gouvernement congolais a toujours refusé toute négociation avec les rebelles du M23. Restons au nord Kivu. Plus de 200 présumés bandits arrêtés, environ 150 armes à feu récupérées et divers biens rendus à leurs propriétaires. C'est le résultat de l'opération Safi Shamji wa Goma depuis son lancement au début de cette année. Ces statistiques sont divulguées par le maire de Goma lors de la présentation à la presse hier d'autres groupes d'individus accusés d'être à la base de l'insécurité dans la ville. Chris Moukand m'attend au reportage.
La dernière vague présentée ce lundi à la presse est constituée de 34 personnes. À leur nombre, l'une aurait été reconnue avoir été impliquée dans le meurtre en février 2021 à Kibumba de l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, Luca Attanasio, et sa suite. Entre vendredi et samedi dernier, une boutique a été cambriolée alors qu'elle est installée dans un bâtiment commercial juste devant l'office du maire de Goma. Un travail coordonné des services de sécurité a permis de mettre la main sur les auteurs de ce vol. Ils font partie des personnes rattrapées. Il y a 2 mois, un convoi d'argent a été attaqué, les convoyeurs abattus par des personnes armées au carrefour dénommé Entrée Président, l'un des présumés responsables de ce hold-up et du nombre de la bande présentée. Au chapitre des biens récupérés, on dénombre 8 armes de guerre, dont 6 d'assaut, munis des lunettes de précision, 11 chargeurs tous garnis, des tenues militaires, 8 machettes et autres biens de particuliers saisis. En présence des autorités de la justice militaire, le maire de Goma, le commissaire supérieur principal Faustin Kapenkamanda, a plaidé pour l'organisation des audiences publiques en vue de juger tous les auteurs présumés du banditisme dans son entité. Chris Mukande, Goma, Radio Kapi.
Du côté de l'Ituri, les combats ont repris ce mardi matin entre les FARDC et le groupe armé Codeco à Kiloita, chef-lieu du secteur de Banyari-Kilo, dans le territoire de Djougou. Des sources locales avancent un bilan provisoire de 7 morts pendant l'attaque des miliciens. Plusieurs villages sont également vidés de leurs habitants dans cette entité coutumière suite aux opérations militaires et les atrocités des groupes armés. Isaac Remoyope.
La population de Kiloita s'est réveillée ce mardi vers 6h par des tirs nourris des miliciens de la Codeco. Cela malgré une forte présence des FARDC qui ont riposté et repoussé ces hommes armés après au moins 2 heures de combat. Les notables des secteurs de Banyari-Kilo révèlent que 7 personnes qui tentaient de se sauver pendant les fusillades des miliciens sont mortes et 10 d'autres blessées. La majorité de la population a des bandades a trouvé refuge dans la brousse. La communauté Nyali signale que plusieurs villages et centres commerciaux dans cette zone minière dont Mungwalu plutôt une se vide quotidiennement de leurs habitants depuis le meurtre de plus de 30 personnes la semaine dernière pendant les combats entre Codeco et Zaïre vers Lodjo, Galaï et Mbidjo. Ce déplacement des populations est également dû aux opérations militaires lancées depuis dimanche contre les groupes armés. Ces personnes se sont installées notamment à Kunda et à Bounia. La communauté Nyali demande à l'armée de traquer ces hommes armés jusqu'à leur retranchement en vue de restaurer l'autorité de l'État dans tous les territoires de Djougou. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Santé, je vous le disais en titre, à Mbujimayi, 29 cas de choléra dont 4 décès sont rapportés en l'espace de 3 semaines dans 11 zones de santé sur les 19 que compte la province du Kasaï oriental. Ces malades sont gardés au centre de traitement de choléra installé à l'hôpital général de référence de la Mouya. D'après le médecin épidémiologiste provincial, seules 2 zones de santé de la ville ne sont pas touchées par cette épidémie sur les 10 zones de santé urbaines. Docteur Jean-Pierre Soumba sollicite l'appui en intrants médicaux pour la prise en charge appropriée de ces malades de choléra et il l'a dit à Esther Ndalafina.
Le choléra, c'est une maladie à propagation très rapide si les mesures ne sont pas prises. Et par rapport à l'extension aussi, en rapport avec les zones de santé, il y a des zones qui n'ont pas encore connu de cas. C'est souvent les zones de santé qui sont vers l'ouest, très avant, notamment la zone de santé de Chilunzu, de Meabi, de Kabeyekamanga, de Chichimbi, qui en fait n'ont pas connu de cas de choléra. Sur la ville, il y a environ 2 zones, la zone de santé d'Enzaba et la zone de santé d'Mpokolo, qui n'ont pas connu de cas. Les mesures sont prises de sorte que cela puisse arriver au bout, mais nous avons bien sûr quelques difficultés. Tout a été fait, le plan a été présenté, mais nous n'arrivons pas à réunir tout le nécessaire pour arriver à bien travailler. Pour les lieux où même les malades sont internés, nous avons difficile à garder un peu plus de 5 malades dans les conditions optimales. Les intrants, nous avons un peu de réserve que nous sommes en train d'utiliser, mais étant donné que le nombre de cas augmente rapidement, nous pensons qu'il serait nécessaire que nous puissions aussi avoir un peu d'appui par rapport à ce matériel qu'il faut pouvoir lutter contre la maladie. Mais sinon, il faut noter que la propagation est réelle.
Santé toujours. Dans la province du Kwilu, la maladie de monkeypox ou variole de singe est signalée dans la zone de santé de Djouma, située dans le territoire de Bulungu. Depuis quelques jours, déjà on compte 3 cas suspects, dont un enfant, indique le chef de division provinciale de la santé du Kwilu, docteur Jean-Paul Matela. Cette maladie virale se transmet généralement de l'animal à l'homme et vice-versa. L'autorité sanitaire qui le dit invite la population au respect des mesures d'hygiène. Irène Boma.
Parmi ces trois cas de monkeypox notifiés dans la zone de santé de Djouma, précisément dans l'aire de santé portant les mêmes noms en territoire de Boulungu, le chef de division provinciale de la santé du Kwilu parle d'une femme, d'un homme et d'un petit garçon de moins de 5 ans. Dans un entretien téléphonique, Dr Jean-Paul Matela Longomo revient sur les signes de cette maladie, autrement appelée variole des singes.
Les éruptions cutanées, qu'on appelle variolique, une éruption avec un peu de liquide à l'intérieur, plus aux extrémités, dans les bras, à la tête, aux pieds. Il y a aussi des cas sévères, il y a dans tout le corps. Et puis, il y a la fièvre.
L'autorité sanitaire invite la population de Djouma au respect des règles d'hygiène afin de limiter la chaîne de transmission.
Nous avons connu le COVID-19. Ce sont les mêmes mesures, à part le port de masque, que nous devons prendre pour des cas de mpox. Ceux qui sont déjà malades doivent éviter de toucher les gens et les objets qui sont partagés avec d'autres personnes et aussi éviter de manipuler les animaux sauvages.
Toutefois, d'après Jean-Paul Matela, les échantillons de ces trois cas ont été prélevés et vont être expédiés à l'INRB à Kinshasa pour des analyses. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
En plus bref, au sud Kivu, notez que la chefferie de Luinja dans le territoire de Mwenga décrète un deuil de 5 jours en mémoire de ses compatriotes qui ont péri dans un accident de route survenu samedi dernier sur la nationale numéro 5, axe Bukavu-Nyangezi. Annonce faite hier lors des cérémonies d'inhumation de 12 corps au stade Rusagara 2 dans la localité Lubanda. Toutes les charges des obsèques ont été prises par le gouvernement provincial du sud Kivu. Dans l'actualité aussi, un nouveau réseau des parlementaires vient de voir le jour. Il s'agit du réseau parlementaire d'accompagnement de la décentralisation et de déconcentration. Son objectif est de s'assurer de la mise en œuvre effective et efficace du processus de décentralisation en RDC. Le président de ce réseau, le député national Joseph Bangakia, a rencontré hier le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, à qui il a sollicité une implication pour la matérialisation de la décentralisation en RDC. Plus de détails avec Michel Kifindangoy.
Ce réseau parlementaire est constitué des anciens gouverneurs de province, des ministres à charge de la décentralisation et autres députés nationaux. D'après ses initiateurs, ce réseau se veut être un laboratoire d'idées et de propositions en matière de la décentralisation. Son président et ancien gouverneur de la province orientale motive cette initiative par les disparités qui bloquent la mise en œuvre effective de cette démarche constitutionnelle qui vise notamment à rapprocher les gouvernants de gouverner en vue du développement à la base. Joseph Bangakia.
Nous avons un immense territoire national. Nous ne pourrons pas le développer si le développement ne part pas à partir de la base. Nous sommes conscients de notre rôle de parlementaire ayant cette expérience. Nous allons la mettre à la disposition de la République pour que la RDC exerce pleinement sa souveraineté.
Pour matérialiser les fondamentaux de ce réseau, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, suggère l'organisation dans le bref délai d'un grand forum sur la décentralisation afin de mettre ensemble toutes les autorités impliquées dans cette problématique. Il sera question de réfléchir et proposer des pistes de solutions pour la réussite de ce processus.
Actualité internationale. Nous sommes d'abord au Tchad. L'armée a annoncé lundi avoir éliminé 70 terroristes et détruit 5 campements et une base dans la région du lac. Les factions héritières du groupe terroriste Boko Haram continuent de s'y affronter et de s'en prendre aux civils. Selon l'état-major général des armées, il s'agissait de l'opération militaire menée par un commando de la force d'intervention rapide, une unité d'élite récemment créée, mais dont l'exercice est pour la première fois rendu public. Et puis, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán s'est rendu ce mardi en Ukraine pour sa première visite depuis le début de l'invasion russe, a annoncé Budapest, ce malgré les fortes tensions liées à sa proximité avec Moscou et son opposition à l'aide pour Kiev, rapporte l'AFP. Le dirigeant est arrivé à Kiev pour des discussions avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a déclaré son attaché de presse cité par l'agence de presse nationale MT.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Raphaël Upelele, secrétaire exécutif de l'ONG Akiza Binadamu au Maniema. Il interpelle la conscience de tout un chacun, surtout des atrocités pour que la torture ne puisse plus continuer comme une infraction la plus récurrente en RDC. Il a lancé ce message en marge de la célébration de la Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de torture, journée célébrée le 26 juin de chaque année. Raphaël Upelele Lokenga est avec Florence Kizalunga.
Monsieur Raphaël Upelele Lokenga, bonjour.
Bonjour.
Akiza Binadamu Maniema, une ONG de défense des droits de l'homme, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des Nations Unies de soutien aux victimes de la torture. Qu'en dites-vous? Est-ce qu'au Maniema, les victimes de torture existent-elles et comment vivent-elles?
Merci beaucoup, madame. Comme dans toutes les journées internationales, il est question au cours de cette Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de torture, de faire un état des lieux de la situation de l'interdiction de la torture et puis d'évaluer les enseignements juridiques internationaux qui interdisent la torture et puis de prendre des stratégies pour que à l'avenir la torture ne puisse pas continuer à rester une violation vedette ou récurrente dans notre pays 40 ans après l'adoption de la convention internationale contre la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et aussi avec la charte africaine des droits de l'homme et pourquoi pas le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui tous interdisent cette pratique odieuse de la torture. Notre constitution aussi se voit de l'article 16, et pourquoi pas la loi portant criminalisation de la torture dans notre pays, qui tous interdisent la torture, mais 40 ans après, la torture continue à être pratiquée et puis c'est nourri par un silence de la part de la victime elle-même, de la part de l'État, et de la part de nous qui avons sous la bannière des droits de l'homme aussi. Voilà pourquoi il est question de nous interpeller, pourquoi nous devons continuer à vivre aux antipodes de ces instruments juridiques internationaux.
Alors, quel état des lieux faites-vous de la situation de victimes de torture dans la province du Maniema?
Les victimes de la torture se nourrissent d'un silence. Et la torture n'est pas tellement connue parce que alors pourtant pour la criminalisation de la torture n'est pas aussi vulgarisée assez. C'est pour cela qu'au cours de cette journée, nous venons de vulgariser les textes en question. Et aussi, il y a l'impunité, il y a l'absence quasiment d'un état de droit caractérisé par l'impunité, vous savez. C'est une pratique qui est érigée en infraction autonome, qui a des conséquences néfastes de la part de la victime, et pourquoi pas de sa famille, pourquoi pas du pays, mais qui malheureusement est banalisée. Et tout ça, ça doit nous interpeller. Et les victimes rencontrent beaucoup plus de ces actes-là au cours d'instructions préjudicielles, ainsi que dans les amigos, les cachots, les prisons. Alors tout ça, ça doit nous interpeller. Le pays a quand même montré sa bonne volonté en édictant, en ratifiant les instruments juridiques internationaux, mais il appartient à chacun de nous de mettre la main dans la pâte, surtout à l'État congolais, doit avoir la politique pour voir dans quelle mesure mettre fin, si pas améliorer la condition ou l'interdiction de la torture.
Alors parlons des soutiens aux victimes de la torture. Il s'agit de quel genre de soutien?
Les victimes de la torture ont besoin de beaucoup de soutien. C'est tout azimut en fait. Et le soutien peut être médical parce que parfois ils subissent des préjudices physiques. Le soutien peut être aussi judiciaire, psychologique, et puis économique et consort. Alors tout ça, ça demande à ce qu'une action synergique puisse être engagée entre le gouvernement, les églises, nous, la société civile, ainsi que des opérateurs de la SIC et d'autres personnes de bonne volonté qui sont épris de cette cause.
Depuis l'institution de cette date par les Nations Unies, est-ce qu'il y a des actions de soutien à ces victimes qui se trouvent éparpillées partout sur le sol congolais, même ailleurs?
Il y a quelques victimes qui bénéficient de soutien. Nous-mêmes, nous avons une clinique juridique au sein de l'organisation. Nous prenons en charge judiciairement, parfois socialement. Et à un certain moment, nous avons mis en œuvre un projet avec l'appui de la Banque mondiale, avec les fonds sociaux de la République, dans un consortium. Somme qu'avec nous étions avec CARE International et l'Afrique, nous apportions un soutien holistique dans tout domaine, mais comme tout projet a des limites, voilà pourquoi nous n'avons plus de moyens. Mais comme c'est une action de routine dans notre organisation, eh bien, nous prenons en charge l'aspect judiciaire et juridique.
Alors, aimons aux victimes.
Aux victimes de porter plainte, de ne pas être silencieuses, et sinon les conséquences sont néfastes pour elles-mêmes ainsi que leurs familles. Voilà pourquoi nous devons aussi les persuader, nous devons les aider, nous qui avons cette manière. Malheureusement, ceux qui sont les tortionnaires sont potentiellement les agents publics de l'État qui sont appelés à protéger la population et ses biens.
Monsieur Raphaël Opelele Lokenga, merci.
À moi de vous remercier.
Le secrétaire exécutif de l'ONG Hakiza Binadamu Maniema répondait aux questions de Florence Kizalunga. C'est la fin de ce journal, coordonné par Élisée Chikota Chivueta. Supervision de Martin Sebujangwe, Jean-Noël Mokondo à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.